Très heureux d'être avec vous cet après-midi, heureux de pouvoir passer ce temps ensemble. Vous avez bien sûr toutes les salutations, comme d'habitude, des frères et des sœurs d'Embrun avec lesquels nous avons passé notre culte de ce matin. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu sans plus tarder, si vous le voulez bien. Oui ? Vous n'avez pas le choix ? C'est votre pasteur qui l'a dit, hein. On va faire une lecture dans Matthieu, au chapitre 13, au verset 15, un texte que je pense vous connaissez. Matthieu, chapitre 13, et au verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Comme on dit, frères et sœurs, il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui ne veut pas voir. Vous saviez ça ? Et même si ces mots, dans le passage que nous venons de lire, ont été prononcés il y a plus de 2000 ans, même si ces mots, par Jésus lui-même, pardon, et si ces mots finalement ne sont que repris d'un autre texte qui date, lui, de près de 2800 ans, eh bien, ce texte reste plus que jamais d'actualité. Ce passage peut s'appliquer à l'état de cœur de notre monde, l'état de cœur du monde dans lequel nous vivons. Il est insensible, il est endurci, il a fermé ses oreilles, fermé ses yeux à Dieu, ne voulant plus rien comprendre, ni même entendre ce que Dieu avait à dire. Ces paroles sont plus que jamais, frères et sœurs, d'actualité. On disait vendredi, ce monde fait tout pour effacer Dieu. C'est un terrible constat, mais le Seigneur, malgré tout, malgré ses oreilles fermées, malgré ses yeux fermés, le Seigneur veut parler. Et le Seigneur dit, même si ce monde s'est éloigné de moi, je ne cesserai d'appeler. J'ai appelé les hommes à écouter ce que j'avais à leur dire. Et tout au long des âges, plusieurs ont choisi d'ouvrir leurs oreilles. Plusieurs ont choisi d'ouvrir leurs yeux. Plusieurs ont entendu la voix de Dieu. Et plusieurs ont choisi la vie. Plusieurs se sont convertis, comme dit le texte. Mais justement, c'est sur ce mot que j'aimerais m'attarder cet après-midi avec vous, se convertir. Les prédicateurs, on appelle souvent les gens à se convertir. On utilise ce mot fréquemment. Convertissez-vous, convertissez-vous, convertissez-vous. Ça veut dire quoi ? Dans le monde, ce mot, il est utilisé pour plein de choses différentes. On peut convertir des euros en dollars, hein, par exemple. Il faut éviter le rouble en ce moment, apparemment. On peut convertir la force du courant d'une rivière en électricité. C'est ce qui se passe à côté d'Embrun, vous le savez ? Ouais, le barrage. On peut convertir des unités de mesure. En cuisine, mesdames, messieurs, d'ailleurs, moi j'aime beaucoup cuisiner, c'est toujours un peu pénible de devoir convertir des centilitres en millilitres, des grammes en... Et puis le lait, combien ça fait de grammes ? On peut convertir la force d'une explosion en mouvement. Vous le saviez ça aussi ? Vous l'utilisez tous les jours, j'en suis sûr. Ça s'appelle la voiture. Dans votre voiture, dans le moteur, il y a plein de petites explosions qui font tourner, qui vont pousser les pistons et qui vont faire tourner le moteur. Mais de manière générale, le mot conversion, Ça désigne l'action de changer quelque chose en autre chose. Alors, nous allons voir comment la Bible nous parle de la conversion et qu'est-ce que ce mot veut dire pour ceux qui l'emploient, pour ceux qui l'ont employé il y a bien longtemps comme Jésus. Qu'est-ce que ça implique ? Sans vouloir vous assommer tout de suite avec des définitions un peu scolaires, hein, il est quand même important de se remémorer finalement la traduction du mot original grec. Littéralement, le mot que l'on a traduit par conversion pourrait se traduire littéralement par se retourner. Se retourner. Ça peut sembler un peu énigmatique, mais vous allez voir que c'est tout à fait logique finalement. C'est simple. Jérémie, est-ce que tu peux venir deux secondes ? On va faire une petite expérience si vous voulez bien. Vas-y, appelle-moi. Voilà, si je ne me retourne pas, ça va être difficile de discuter avec lui, vous ne croyez pas ? Alors Jérémie, comment tu vas ? Ouais, c'est compliqué. Hein. Encore là, j'ai le micro, il m'entend. Maintenant, vas-y, Jérémie, rappelle-moi. Là, si je me retourne, on peut discuter, on se voit, on échange des regards, on se comprend. Tu peux aller t'asseoir. Merci, Jérémie. Se retourner. La première chose à faire, la première chose que le Seigneur nous demande de faire aujourd'hui, c'est de nous tourner vers lui. De nous tourner vers lui pour qu'il puisse nous parler, pour qu'il puisse avoir un échange avec nous, pour qu'il puisse nous communiquer le message qu'il a pour toi, qu'il a pour nous. Dieu a quelque chose à dire. Et si tes regards sont portés sur le monde, si tes regards sont portés ailleurs, tu ne vas pas comprendre le message qu'il a pour toi. Peut-être que cet après-midi, cette simple parole est pour toi. Le Seigneur te dit, regarde-moi. Regarde-moi, retourne-toi vers moi. Et je te parlerai, je communiquerai le beau message que j'ai pour toi. Jusqu'à présent, on était peut-être là sans réellement essayer de comprendre ce que Dieu voulait nous dire. Mais parfois, il a beau essayer de parler, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et si on ne se retourne pas ? Mais Seigneur, il appelle encore aujourd'hui. Et il attend seulement que tu te retournes, que tu puisses enfin entendre ce qu'il a à te dire. Le mot conversion, il est souvent utilisé pour désigner un type bien particulier de phénomène également. Lorsqu'il s'agit de transformer quelque chose en autre chose. Dans la région, on possède, comme je le disais tout à l'heure, une machine exceptionnelle, un édifice exceptionnel qui fonctionne exactement sur ce principe. La force de l'eau va entraîner les turbines et transformer la force de l'eau en électricité. La voiture fonctionne également sur ce principe. Alors, est-ce qu'on peut transposer ce principe à la conversion dont nous parle la Bible ? Peut-on dire que la conversion biblique est une transformation ? Que l'on passe d'un état à un autre ? Vous savez quoi ? Je crois que c'est encore mieux que ça. Dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 4, il est dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Une des choses que nous dit ce texte et que nous rappelons à chaque fois, c'est que nous étions morts. C'est un état qui est logiquement quelque chose d'irréversible dans l'état de nos connaissances actuelles. Les scientifiques vous diront, quand on est mort, point. Et même si là, c'est de notre âme dont il est question, le constat est le même, le péché a eu raison de notre âme. Car le salaire du péché, Je m'attendais à ce que vous le finissiez, mince. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et ça, personne ne peut y échapper. C'est peut-être la première chose que, là aussi, le Seigneur voudrait te dire. Tu es un pécheur et ce péché te conduira à la mort. Et peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait répondre au Seigneur, mais finalement, je ne suis pas quelqu'un de « Oh, ça va !» Je ne suis pas quelqu'un de mauvais, je ne suis pas quelqu'un qui mérite finalement la mort. J'ai tué personne. J'ai tué personne. Même pas un animal. Je suis végétarien. Votre rire est suspect quand même. Est-ce que c'est mon physique qui n'est pas celui d'un végétarien? Non, ça va? J'ai jamais fait de mal autour de moi, qui que ce soit, à qui que ce soit dans la planète. Je trie mes déchets, j'ai une voiture électrique, je me chauffe à la géothermie, j'ai des panneaux solaires sur le toit, j'ai une éolienne dans le jardin, je me suis jamais disputé avec qui que ce soit, j'ai aucun compte à rendre. Mes amis vous diront que je suis la personne la plus gentille de la Terre. Alors pourquoi je mériterais la mort ? La vérité, c'est que la Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Nous sommes des pécheurs. Le psaume 14, versets 2 et 3, nous dit « L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » On peut être l'homme le plus gentil de la terre, on est quand même un pécheur. Parce que nous avons manqué le but que Dieu nous avait fixé. Dieu te dit aujourd'hui, tu es un pécheur. Et ton péché, si petit soit-il en quelque sorte, même si je ne suis pas sûr que ce soit juste de parler comme ça, te mènera à la mort. Mais Dieu te dit également, aujourd'hui j'ai la solution. Aujourd'hui, j'ai la solution. J'ai ce qu'il te faut pour retourner à cette vie. Cette vie que je voudrais tant finalement te communiquer. J'ai la solution et cette solution, c'est Christ. C'est Jésus qui a pris la condamnation qui pesait sur ta vie parce que tu étais un pécheur. Il a pris tes fautes lorsqu'il est mort à la croix. Du calvaire. Et c'est par ce sang qui a coulé que tes péchés peuvent être pardonnés aujourd'hui. C'est la condition pour que tu sois rendu à la vie de Christ. Oui, tu étais mort, mais Dieu a envoyé son Fils pour que tu puisses retourner à la vie. Et finalement, il veut te faire passer d'un état à un autre, d'un état de mort à un état de vie. Et c'est là le premier, peut-être le plus important changement que Dieu voudrait opérer en toi. Finalement, si la conversion, selon la définition qu'en fait l'homme, est une simple transformation, faisant finalement d'une force une autre force, la conversion selon la Bible, c'est plus que ça. La conversion selon la Bible, c'est une résurrection. C'est une résurrection. Nous étions morts et nous sommes rendus à la vie en Jésus-Christ. Et Dieu, cet après-midi, si tu ne l'as pas encore expérimenté, veut te faire passer par cette résurrection. En réalité, quand un prédicateur vous appelle à vous convertir, il vous appelle à revenir à la vie. Toujours dans la définition que donne l'homme de la conversion, il y a un dernier but dans cette conversion. Par exemple, si la force de la gravité qui entraîne l'eau vers le sol est transformée en électricité par les barrages, c'est parce que nous avons besoin d'électricité. On est d'accord ? On pourrait vivre sans. L'humanité l'a fait pendant des siècles. Bon, maintenant, ça serait quand même un peu difficile parce qu'on dépend beaucoup de l'électricité. Hein. Surtout moi, avec la tablette, tout ça. Pourquoi Dieu a voulu notre conversion ? Pourquoi Dieu a voulu que nous soyons rendus à la vie ? Pourquoi un Dieu si grand s'est intéressé à notre sort ? Nous qui, finalement, sommes si petits face à ce que Dieu a créé, frères et sœurs, on est dans une région où on s'en rend facilement compte. Hein. J'ai un frère qui habite sur l'île. Pas l'île, genre Martinique, non. L'île, le nord. Je ne vais pas dire le grand nord, mais le nord. Il m'est arrivé d'aller le voir, de visiter un petit peu l'île, d'aller un petit peu en Belgique. Vous savez ce qui m'a marqué ? C'est tout plat. C'est tout plat. Voilà. Des arbres de temps en temps, des forêts, mais c'est tout plat. Alors, c'est particulier. Il y en a qui aiment. Mes frères et sœurs, dans cette région, c'est loin d'être plat. On est d'accord ? Il y a quelques plateaux de temps en temps, et encore, des plateaux un peu bancals. Et ces montagnes qui se dressent majestueusement devant nous. On est dans un département, je crois, où à chaque fois qu'on tourne le regard, on voit la mer, les merveilles de Dieu. À chaque fois qu'on tourne les regards, on voit la grandeur de Dieu au travers de sa création. Je suis à Embrun, vous savez, je suis dans cette vallée de l'Embruné. Il y a le mont Guillaume en face de moi, il y a le Morgon à gauche, le lac il est artificiel, mais quand même, il y a les montagnes qui entourent ce lac, finalement, ce roc où Embrun est posé. Merveille de Dieu, Dieu est grand, Dieu est grand, amen. Mais qui sommes-nous, nous, pour... Il s'intéresse à nous. Pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé à une si petite chose que l'homme ? Et finalement, la réponse à cette question, toute la parole de Dieu le crie. Toute la parole de Dieu crie la réponse à cette question. Et ce cri, c'est un cri d'amour. Dieu, cet après-midi, encore, nous crie ceci. Je vous aime. Je vous aime. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Frères et sœurs. Dieu m'aime. Ésaïe 49, 15. On connaît ce texte là aussi. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait ? Moi, je ne l'oublierai point. Et vous savez, je crois qu'il n'y a peut-être pas plus grand amour sur terre, du moins que l'homme peut produire, que l'amour que des parents peuvent porter à leurs enfants. Et c'est pourquoi finalement ces paroles qu'Ésaïe va écrire sont pleines de sens. Où qu'on regarde sur la terre, où qu'on regarde autour de nous, on ne trouvera pas un amour plus grand que celui de notre Seigneur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de comparable. Et cet amour, il veut nous le faire connaître. Et finalement, frères et sœurs, si la première chose que Dieu nous dirait, une fois que nous sommes retournés, je pense que ça serait cela, je t'aime. Je t'aime et je veux te sauver. Je t'aime et je veux te sauver. Il y a ce passage merveilleux que je vais vous lire dans la version Parole vivante qui dit, Éphésiens 3, 18, vous serez aussi à même dans la communion avec les chrétiens, les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser combien long, large, profond, élevé est l'amour du Christ. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. Quelle grâce nous avons d'être aimés par un Dieu si grand. On ne mesure pas toujours ça. On ne mesure pas toujours. Quelle grâce nous avons de pouvoir connaître cet amour. Parce que l'amour, finalement, l'amour de l'homme peut manifester une très faible influence sur nous, sur notre homme, sur les personnes. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas l'amour que l'on peut avoir pour moi qui va faire que je serai forcément une personne totalement différente. Ça peut m'aider forcément. Hein. Être aimé, c'est toujours sympathique, c'est toujours bien, c'est toujours... Mais l'amour de Dieu, lui, transforme radicalement les cœurs. Cet amour peut tout changer dans ta vie. 2 Corinthiens 3, 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le voile qui est sur nos yeux disparaît en Christ et nous permet de voir. C'est là encore ce que Dieu veut faire pour nous, par amour. Il veut retirer le voile qui était à présent sur nos yeux. Il veut te faire voir ce monde, voir ce que tu es, non pas avec le prisme de ce monde, mais avec ses yeux à lui, avec les yeux de son amour. Il veut nous faire voir ce qu'est ce monde, sans avenir, sans espoir. Et frères et sœurs, je crois que même au travers du voile, ça devient tellement flagrant qu'on pourrait peut-être le voir sans ça, mais le Seigneur veut en retirer ce voile. Nous allons reprendre simplement le texte que nous avons lu tout à l'heure, mais nous allons cette fois-ci poursuivre notre lecture jusqu'au verset 17, si vous le voulez bien. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Heureux, frères et sœurs. Le Seigneur veut notre bonheur. Il veut, finalement, que l'on se tourne vers lui, qu'il puisse enfin faire tomber le voile de nos yeux, que nous puissions voir l'amour qu'il a manifesté pour nous à la croix, cet amour qui peut tout changer. Qu'est-ce qui peut changer ? Notre passé. Nous étions morts, nous étions au péché, le Seigneur l'a pardonné. Qu'est-ce qui peut changer notre présent ? Cet amour peut transformer ce que nous sommes, nous donner une nouvelle vie. Le Seigneur est grand, il peut agir avec toute sa puissance dans nos vies et dans notre cœur. Ce qu'il peut changer, c'est notre futur. Et frères et sœurs, je crois que dans les temps que nous vivons, avec tout ce qui se passe dans le monde, le futur, on pourrait se dire que le futur s'assombrit. On pourrait se dire que finalement, le futur n'est pas quelque chose de beau. Mais quand on est en Christ, on a cette espérance vivante. On a cette assurance que notre futur est assuré. On a cette espérance que notre Seigneur nous prépare une place dans son ciel de gloire. On a cette assurance que finalement cette vie n'est qu'un passage. Il y a beaucoup de textes dans la parole de Dieu ce texte aux Hébreux qui parle des patriarches, il est dit reconnaissant qu'ils n'étaient que voyageurs sur la terre. Voyageurs. Dans un voyage, il y a un départ et il y a une arrivée. Il y a un itinéraire. Mais Seigneur, il veut que notre arrivée, elle soit dans son ciel de gloire. Amen. Pour terminer, je dirais simplement à ceux qui ne l'ont peut-être pas encore fait, convertis-toi. Maintenant que tu sais de quoi il en retourne. Il s'agit de se tourner dans la bonne direction pour que Dieu puisse te parler. Se tourner dans la direction de Dieu, être attentif à sa voix. Parce que ses paroles peuvent transformer une vie. Il s'agit de le laisser agir dans ton cœur, de laisser te transformer, accepter ton état de pécheur, ton état de mort et le laisser te conduire à la vie, te rendre à la vie, en simplement lui demandant pardon pour ce péché. Il s'agit de le laisser prendre en main ta vie et de la conduire peut-être vers des eaux plus paisibles, mais de la conduire vers cette destination céleste qu'il a prévue. Alors peut-être que cet après-midi, mes derniers mots seront là encore. Comme je le disais, c'est quelque chose qu'on les prédicateurs disent. Convertis-toi. Convertis-toi. Donne-toi au Seigneur si ce n'est pas encore le cas. On va rendre grâce à Dieu. Seigneur, mon Dieu, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta patience envers nous, merci parce que, c'est vrai, tu nous as donné cette possibilité de nous convertir, de nous tourner vers toi, mon Seigneur, d'entendre le message que tu avais pour nous, d'entendre les paroles qui, Seigneur, ont transformé notre vie. Merci, mon Dieu, parce que tu as transformé notre vie et tu l'as amené plus loin. Seigneur, tu nous as donné un espoir et de l'avenir. Seigneur, tu nous as donné une espérance vivante. Seigneur, tu nous as donné tellement. Dans ce monde qui se perd, nous sommes dans l'espérance. Dans ce monde qui est triste, nous sommes dans la joie. La joie d'appartenir à un Dieu si grand et qui a de telles promesses pour nous. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est là cet après-midi, que tu puisses toucher les cœurs, les corps, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire et que toute la gloire te soit rendue. Amen.